Il est à 3725 points. Il faut dire que les investisseurs font preuve d'un petit peu d'attentisme avant la batterie de statistiques qui va émailler l'après-midi. Sur le marché d'échange à présent, le dollar est légèrement reparti à la baisse. Il faut en ce moment 1,2735 $ pour acheter 1 euro. Voilà Jacqueline, je vous rappelle que le CAC 40 gagne actuellement 0,09%. Il est à 3725 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, 2 millions d'histoires, Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui, quand le pouvoir est dans la rue, une histoire des manifestations. D'histoire. Avec son rituel, ses slogans, ses drapeaux et ses lieux de pèlerinage entre la Bastille, la Nation et la République, la manifestation de rue a accompagné et même parfois provoqué presque tous les grands événements de notre histoire contemporaine. La victoire du Front Populaire, la libération de Paris, la naissance de la Ve République, les révoltes étudiantes de mai 68 ou l'élection présidentielle d'avril 2002, quand la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour avait provoqué contre lui une des plus grandes manifestations jamais vues à Paris. En exprimant sa colère, sa joie ou ses revendications dans la rue plutôt que dans un bureau de vote, le manifestant espère bien sûr changer le cours des choses. Mais il ne suffit pas de descendre dans la rue pour obtenir satisfaction. Les manifestants qui en juin 2003 s'opposaient à la réforme des retraites de Jean-Pierre Raffarin en savent quelque chose.
Je suis attentif à ce qui se passe dans les manifestations. Je lis les pancartes, j'écoute les slogans. Je suis favorable au dialogue social. Et cette réforme des retraites, le pays doit la faire dans l'intérêt de nos enfants. Mais ceux qui veulent bloquer, eh bien, il ne faut pas qu'ils comptent sur moi pour avoir quelques sentiments de tendresse. Je ferai cette réforme car c'est l'intérêt du pays. Le Parlement doit décider. La rue doit s'exprimer, mais c'est pas la rue qui gouverne.
C'est peut-être pas la rue qui gouverne, mais en attendant, c'est un petit peu grâce à la rue s'il a été mis en place. Ouais, c'est grâce au peuple, et le peuple aujourd'hui dans la rue pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il veut nous proposer.
Daniel Tartakovsky, bonjour.
Bonjour.
C'était en juin 2003, la dernière des grandes manifestations dont vous parlez dans un livre qui vient d'être publié aux éditions La Dispute, la manif en éclat. De quand date cette façon d'exprimer sa colère ou ses revendications en descendant dans la rue? Vous semblez dire que c'est au 19e siècle qu'apparaissent les premières manifestations, et pourtant on a manifesté bien avant. Au fond, on peut dire que la prise de la Bastille, c'est une manifestation qui a bien ou mal réussi selon le point de vue où on se place.
On pourrait presque dire que les hommes sont descendus dans la rue depuis que les sociétés existent, depuis 2000 ans d'histoire. Bon, c'est une question que les historiens n'aiment pas beaucoup, que la question des origines. C'est clair que si par manifestation on entend le fait d'être dans la rue, on pourrait remonter beaucoup plus loin. Mais je crois qu'il y a quelque chose de sensiblement différent entre ce qu'on appelle communément la manifestation et les révoltes ou les révolutions. La révolte et la révolution, c'est un mouvement qui éclate face à un sentiment que ça ne peut plus durer, face à un obstacle qu'il a devant soi, la Bastille, et qui amène à prendre la Bastille, ou qui amène en Argentine, parce qu'on a faim, à rentrer dans les magasins et à prendre le pain parce qu'il faut se nourrir. Et il me semble que la manifestation se distingue, ressemble à la révolte en ce sens qu'elle occupe le même terrain, celui de la rue, mais elle s'en distingue fondamentalement en ce que la manifestation admet le temps du détour. La manifestation s'inscrit dans le temps des stratégies politiques. Et donc, elle est assez contemporaine de l'émergence des partis politiques de type moderne en France au tout début du XXe siècle.
Mais ce qu'on appelle la manif, en fait, ça recouvre des réalités très différentes. On peut manifester sa colère, des revendications, sa joie même, puisque vous évoquez, par exemple, la libération de Paris, c'est une manifestation de joie. On pourrait dire que les grèves aussi de juin 36 et les manifestations, c'est la même chose. Ou encore même que ceux qui manifestent aux Champs-Élysées en 1998, après la victoire de la France au Mondial,
mondiale sont des manifestants. Au fond, comment la définir? Qu'est-ce qu'elles ont en commun et qu'est-ce qui les distingue?
Très difficile de définir la manifestation. Je crois qu'on peut, on arrive à la définir par comparaison ou par opposition à d'autres formes d'investissement de l'espace public. Ce qu'il y a de commun à tout ce dont vous parlez, on pourra en rajouter d'autres, c'est le fait qu'on a là une forme d'expression qui se déroule dans l'espace public et qui mobilise à la fois donc les acteurs, les forces de l'ordre, les interlocuteurs, l'État bien souvent, des spectateurs, les médias. Donc la notion d'espace public qui me paraît centrale. Pour le reste, quelque chose qui peine à être défini. Rappelons que il faut 1935 pour qu'un décret-loi prenne en charge ce phénomène comme un phénomène spécifique. La question des frontières est une question constamment mouvante. Quelle différence entre une commémoration et une manifestation? Il est bien clair que le 14 juillet 1935, 14 juillet, commémoration, est une manifestation. La Gay Pride est-elle une manifestation? Oui, bien sûr, sans doute. Donc, la question de la définition est une question constamment ouverte et il faut réfléchir au phénomène qui cherche à se manifester en investissant l'espace public, en se demandant pourquoi ce choix.
Vous évoquez la loi de 1935 qui la codifie en quelque sorte, elle est reconnue. Pourtant, elle peut prendre des aspects à la fois illégales quand elle est interdite, et en même temps, vous dites qu'elle est légitime. Qu'est-ce qui peut légitimer dans une démocratie le fait de choisir de s'exprimer dans la rue quand on peut le faire dans un bureau de vote?
Je dirais que c'est une question, là où c'est encore une question difficile. On pourrait se demander ce qui légitime l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'est un petit peu la même question. Légitime, la manifestation ne l'est pas au regard du système parlementaire. Je dirais qu'elle ne peut pas l'être au regard du système parlementaire, puisque quand le régime parlementaire se constitue en France, il est extrêmement défiant vis-à-vis de toute forme de corps intermédiaire, c'est-à-dire vis-à-vis de tout ce qui paraît pouvoir exprimer un intérêt particulier au regard de l'intérêt collectif dont le Parlement est la seule expression légale et légitime. Donc la manifestation, quelque chose qui pendant très longtemps est, je dirais, allégal plutôt qu'illégal. Il faut attendre 1935 pour qu'un décret-loi et non pas une loi même la prenne en charge, qui est longtemps illégitime puisque apparaissant comme une forme d'expression d'intérêt particulier, et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve constamment quand on parle d'intérêt catégoriel. Enfin, on sait bien que c'est quelque chose qui circule constamment dans le débat politique, qu'il s'agisse des manifestations ou des grèves. Alors, qu'est-ce qui la légitime? Eh bien, je dirais deux sortes de données. D'une part, et au regard de ceux qui manifestent et qui, bien évidemment, s'estiment légitimés à manifester, le fait que dans certaines circonstances, et je reprendrai ma comparaison avec le 18 juin 1940, ceux qui manifestent s'estiment, dans certaines conjonctures, porteurs de morale, de valeurs qui sont les valeurs du régime. Pensons à la défense des institutions qu'on croit menacées par les fascistes en 1934, ou la défense de l'école. Et puis ce qui légitime aussi, c'est le regard de l'autre ou l'attitude de l'autre. Quand les pouvoirs publics commencent à considérer que cette chose allégale, illégitime, sans statut, sans nom, sans espace, doit être prise en compte comme spécifique, on crée des forces de l'ordre spécifiques, 1921, on adopte un décret-loi en 1935, c'est une forme de légitimation.
Nous occupons la Sorbonne.
Quel est votre sentiment?
Je crois qu'il y aura une manifestation, effectivement.
Nous sommes derrière le gouvernement, dans tous les sens.
Le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait.
En bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs, je suis de ceux qui manifestent. Avec leur gueule de travers, leur fin de moi qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices. Avec leur teint calamiteux, leur fin de moi qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. En groupe, en ligue, en 200 générations. Si j'ai souvent commis les fautes, on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ses compagnons qui le charme à la nation. On a vu défiler par ordre des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule.
En groupe, en ligue, en procession, Jean Ferrat en 1967, un an avant les grandes manifestations de 68, c'était un grand cru, Daniel Tartakovsky, 1968, pour les manifestations.
Ben, c'était un grand cru, c'était la manifestation a retrouvé une centralité de premier ordre dans la vie politique, et ce qui est intéressant, c'est que la manifestation en 68, comme elle l'avait déjà fait en 34, ouvre la crise et ferme la crise. Et donc on a bien là un de ces épisodes de notre histoire nationale où la manifestation occupe une place absolument centrale dans le dispositif politique.
Alors la manifestation, c'est appartient plutôt à la culture de la gauche, on l'imagine plus souvent de gauche. Or en 68, on l'oublie, il y a eu évidemment les immenses manifestations étudiantes du 13 mai 1968, étudiantes et syndicales, parce que les syndicats, en prenant, comme on disait à l'époque, le train en marche, ont donné une ampleur énorme à la manifestation du 13 mai 68. Et puis il y a eu le 30 mai, c'est-à-dire une manifestation pour le soutien au général de Gaulle.
Ben, il est bien clair que la gauche est beaucoup plus souvent dans la rue que la droite, mais il ne faudrait pas oublier que constitutivement la manifestation est de droite comme de gauche. La lutte contre les inventaires au moment du conflit entre l'Église et la République en 1901 a amené les catholiques à être aux portes des églises et dans l'espace public et dans la rue. Il y a une tradition de présence des catholiques qui ne sont pas constitutivement à droite mais qui l'étaient dans la France avant 1914 dans la rue. Et j'aurais tendance à dire que la droite y est infiniment moins souvent, d'abord parce qu'elle a plus souvent le pouvoir, et que quand on a le pouvoir, on a moins besoin d'être ailleurs, mais que quand elle y descend, c'est souvent avec des effets beaucoup plus spectaculaires.
Et avec, parfois, en organisant même des manifestations encore plus imposantes. C'était le cas en 1984, quand s'est produite une des plus grandes manifestations jamais vues à Paris, contre le projet de loi du ministre socialiste de l'Éducation nationale, Alain Savary, qui remettait en cause l'enseignement privé. France Inter, Christian Bilman, le 24 juin 1984.
Il est impossible, alors qu'il est, de dénombrer exactement les manifestants qui marchent dans Paris en scandant des slogans pour la défense de l'école privée et aussi des slogans politiques, mais des milliers de cars et 150 trains supplémentaires sont arrivés tôt ce matin des six coins de l'Hexagone dans la capitale. Les organisateurs n'auront donc apparemment pas de mal à revendiquer ce soir le million de personnes qu'ils avaient prévues.
Hommes, femmes de 17 à 77 ans, tout le monde de l'enseignement privé est là, représenté. Les jeunes vieilles France aux mocassins et cheveux courts, bien sûr, mais aussi, et sans doute les plus nombreux, les parents venus de toutes les provinces et de tous les milieux sociaux.
Est-ce que vous attendiez un pareil succès ?
Bien entendu, et même, on n'avait encore rien eu, ça va déborder. Et c'est la liberté, ça.
Est-ce que vous croyez que le gouvernement va en tirer des conclusions ?
Bon, je sais pas, il est pas tellement doué, le gouvernement. Mais j'espère qu'il n'en tire pas, on recommencera, alors comme ça, il comprendra.
Mitterrand, un ancien du privé, reprenez Savary, rendez-nous Sakharov. C'était quelques slogans des manifestants de 84 contre la loi Savary. Il n'y a pas de manifestation sans slogan. C'est fait partie du rituel, Daniel Tartakovsky.
Il peut y avoir des manifestations silencieuses. En général, on parle de marche. Mais je dirais que il y a des types de manifestations qui ont leur rite, qui ont leur code. Ce qui est intéressant, c'est de voir une droite qui descend dans la rue alors qu'elle n'était pas descendue depuis un certain temps, et qui finalement retrouve, le sait-elle encore ou ne le sait-elle plus, chose de vieille trace. Il y avait eu de très très puissantes manifestations pour la défense de l'école libre en 1924-25. Je ne sais pas quels étaient les manifestants de 84 qu'ils savaient encore. Or, ces manifestations épousaient pour une part des formes similaires. On était venu par paroisse, on s'était regroupé enfin dans les espaces normaux de la sociabilité. En même temps, on voit très bien ces manifestations de droite, c'est vrai en 68, mais c'est vrai en 84, s'approprier les rythmes, les slogans des manifestations. manifestations les plus fréquentes, celle de l'adversaire, celle de la gauche, on entend là avec les rythmes. On voit cette manifestation s'approprier un espace qui était réputé place forte de la gauche, puisque cette manifestation converge sur la Bastille.
Oui, ça aussi c'est important, c'est toujours un peu...
S'approprie la liberté de Paul-Éluard, donc on voit bien qu'il y a des mots, il y a des espaces qui sont des espaces en jeu, il y a des rites, il y a des codes. On ne l'entend pas dans votre reportage, on ne peut pas tout entendre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces manifestants, ou plutôt ces manifestantes, avaient pour beaucoup amené des casseroles et tapé sur les casseroles, et rappelons-nous que c'était les manifestations chiliennes contre Allende qui avaient les premières, on a retrouvé ça en Argentine beaucoup plus tard, mais développé ce type de manifestation. Donc il y a des phénomènes de circulation, des rites, des formes.
Et puis à côté, qu'on retrouve dans toutes les manifestations, qui est, sauf quand elles tournent évidemment très mal, qui est festif, au fond c'est une fête la manifestation.
La manifestation, bon, oui, c'est ça, je crois qu'il faut jamais oublier que la manifestation, finalement, elle est fille de la révolte et de la fête. On se demandait tout à l'heure quand est-ce qu'elle est née. Je crois que si on avait remonté sur les origines plus anthropologiques de la manifestation, on trouverait la révolte et la fête. Et je crois que toute manifestation est tendanciellement capable de dériver vers l'un ou vers l'autre. N'oublions pas qu'il y a encore des manifestations qui peuvent se solder par mort d'homme, Malikou Sekine.
Oui.
Donc la manifestation n'est jamais un pur jeu. Mais la manifestation est aussi souvent festive. Et il me semble que dans la phase que nous traversons depuis 10, 15 ans, peut-être 20 ans, de désamour du politique, c'est peut-être un des éléments qui contribue à faire que beaucoup de gens descendent dans la rue.
On y reviendra, Danette Tartakovsky, mais vous évoquiez 86, hein, la mort de Malikou Sekine. Ça, c'était véritablement une tragédie qui a obligé Alain de Vaquer à retirer son projet. Là, c'était la droite qui était au pouvoir. De même que 2 ans plus tôt, la manifestation de 84 qu'on a entendu entraîner le retrait du projet Savary et le départ même du gouvernement Mauroy. De même qu'en 95, les grandes manifestations contre le projet de réforme de la sécurité sociale d'Alain Juppé vont entraîner sa chute et on renonce. Ça a un pouvoir considérable dans notre histoire. La manifestation, c'est pas seulement une fête, elle a un objectif et elle peut l'atteindre, un objectif politique.
Je crois que c'est particulièrement vrai à partir des années 80. On trouverait des cas dans des périodes antérieures, mais il se passe quelque chose de tout à fait neuf à partir des années 80, et je crois que la manifestation des catholiques pour la défense de l'école libre a été de ce point de vue-là fondatrice, ou peut-être refondatrice. Entre 83 et 95, on a eu incontestablement... à des rythmes très fréquents, des manifestations qui ont été capables de faire et défaire des lois, des projets de loi, des ministres et quelquefois des gouvernements. Alors, on dira ça avait déjà eu lieu, je parlais tout à l'heure de l'attaque contre l'école libre 1924-25, c'est pas tout à fait une première. Ce qui est une première à partir de 1983, c'est que c'est pratiquement considéré comme un processus normal de fonctionnement. Ça n'est plus pensé par les gouvernements en termes de crise politique ouverte, comme c'était le cas dans les années 20 ou dans les années 30. Et d'une certaine manière, les gouvernements en viennent à penser et presque à théoriser la manifestation comme une forme de référendum d'initiative populaire.
Et puis surtout, alors c'est étonnant, j'étais surpris en vous lisant et en lisant les chiffres que vous donnez dans votre livre, Daniel Tartakovsky, on a souvent dit que ça s'essoufflait, qu'après 68 il n'y avait plus de manifestations. On constate qu'il y en a de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus nombreuses, avec même un sommet en 99, 1768 manifestations contre
à
375.
À Paris seulement.
Oui, à Paris seulement. C'est quand même assez extraordinaire. Au fond, ça ne s'essouffle pas, alors qu'on disait, au fond, c'est fini les manifs.
Alors évidemment, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de manifs, parce que il y a les très grandes manifestations. On entendait tout à l'heure dans le reportage un des manifestants qui parlait du million de manifestants. Et puis
il y a toujours des chiffres. Il faut rappeler qu'il y a toujours,
bien sûr,
c'est
toujours
assez
des
amusant.
Chiffres,
vous les donnez, bataille de chiffres entre la police qui est toujours.
Comme disait le préfet Maurice Grimaud, un million de manifestants, ça ne veut pas dire 999 000 plus 1, ça veut dire que c'est beaucoup plus que les organisateurs ne l'espéraient.
Alors, les organisateurs, c'est le jeu. On commence à augmenter le nombre, la police à les diminuer.
Donc il faut faire attention à ces chiffres, parce qu'il y a souvent dans ces chiffres qui sont les chiffres de la préfecture de police de Paris, il y a souvent de très petites manifestations, pour ne pas dire des micro-manifestations. Le problème, c'est que pour au regard de la préfecture de police, il suffit qu'il y ait 5 manifestants qui déclarent leur volonté de manifester pour que ça pose un problème de circulation. Et je crois que maintenant, pour la ville de Paris, c'est devenu beaucoup plus souvent un problème de circulation qu'un problème d'ordre public. Et puis alors, beaucoup de manifestations parce que dans la mesure où il y a un phénomène de dilution des organisations, ce ne sont plus les grands partis, les syndicats, ce sont majoritairement les grands partis, les syndicats, mais aux côtés de ces grands partis, les syndicats qui manifestent dans un cadre stratégique, une myriade d'associations de toute nature qui recourent à la rue et donc ça fait immédiatement monter les effectifs.
Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit il y a 2 ans, France Inter, Denis Estagnaud, le 1er mai 2002.
France Inter.
On n'avait pas vu ça depuis 1968. C'est la réflexion de nombreux anciens des manifestations en province comme à Paris. Car c'est le fait du jour. C'est toute la France qui a manifesté en ce 1er mai 2002. Dans les grandes villes comme dans les petites, que l'on prenne les chiffres de la police comme ceux des manifestants, on sait que plus d'1 million de personnes, vraisemblablement 2 millions, sont descendues dans la rue pour manifester leur rejet de Jean-Marie Le Pen et de l'extrême droite.
Mussolini, 1922, Hitler, 1933, Le Pen, jamais.
Alors c'était le 1er mai 2002 à Paris, mais aussi en province, après le premier tour de l'élection présidentielle qui avait éliminé Lionel Jospin et mis Jean-Marie Le Pen présent au deuxième tour, ce qu'on n'avait évidemment jamais vu, pas plus qu'on a vu ce type de manifestation énorme, considérable. C'est un tournant un peu, on a le sentiment qu'on est, c'est toujours une grande manif, il y a toujours des slogans, il y a toujours des grands cortèges, mais c'est plus le même type de manifestation, c'est Daniel Tartakovsky.
Bah, d'une part, on a là, je dirais, l'exemple entre tous... de la manifestation légitimée et légitime dans la mesure où elle se donne comme un des moyens de défendre les valeurs de la République menacées par Jean-Marie Le Pen.
Donc, mais là, on manifeste pas pour une revendication ou contre un gouvernement, mais contre une élection, contre le résultat d'une élection.
Et alors voilà, le grand paradoxe et la grande novation, c'est qu'on manifeste entre deux tours, on manifeste dans une combinaison tout à fait inédite avec le suffrage universel, puisqu'il s'agit de désavouer le résultat en sachant bien que ça n'est pas à la place d'eux, puisqu'on va vers le second tour. Il s'agit de peser sur le sens que le second tour revêtira et de mobiliser en vue du second tour.
Et de peser avec quelque chose qui a beaucoup modifié aussi la nature des manifestations, ce sont les médias qui donnent évidemment une ampleur énorme, notamment la télévision. Au fond, on défile, je dis pas moins, mais enfin, on défile au moins autant pour la télévision qui donne une ampleur à une manifestation qui autrement ne serait vue que par les gens qui se débattent dans la rue. Les médias ont joué un rôle énorme ces dernières années.
Bon, les médias ont contribué à transformer les manifestations, les médias ont contribué à faire circuler des modèles de manifestations. Je me défie un petit peu des explications par et pour les médias, dans la mesure où je crois que la manifestation est un lieu où il se passe des choses importantes entre les manifestants. Je crois que c'est un lieu de politisation, je crois que c'est un lieu de socialisation dans une phase qui en manque. Et donc oui sur le rôle des médias, mais ne le survalorisons pas.
Alors, c'est un lieu aussi de plus en plus diffus, parce que parmi les évolutions que vous citez dans votre livre, il y en a une autre, un autre type de manifestation. Jusque-là, au fond, dans chaque pays, on manifestait dans son petit coin pour des revendications nationales ou corporatistes, jusqu'en 1999, lorsque les manifestations ou la manifestation changeait d'échelle en se mondialisant, comme l'organisation à laquelle d'ailleurs elle s'en prenait, France Inter, au sommet de l'OMC à Seattle, le 1er décembre 1999.
Il est 9h du matin, quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle. Leur objectif, mettre une joyeuse pagaille à quelques heures du sommet. Petit à petit, les jeunes encerclent les bâtiments officiels, sous les yeux de la police. Une deuxième manifestation se met en route avec des syndicats, José Bové et la CGT qui a fait le voyage avec ses slogans.
Tous ensemble, ouais.
Très vite, le centre-ville est paralysé. La cérémonie d'ouverture du sommet doit être annulée. La nuit tombe, dispersion des manifestants, mais de jeunes casseurs et des grunges cassent des vitrines. Tir de gaz lacrymogène, le maire décide de l'état d'urgence annoncé par la télévision locale.
Downtown Seattle, a curfew has been imposed by the mayor.
Alors la manif des anti-mondialistes, on dit aujourd'hui altermondialistes à Seattle, c'est une nouvelle génération de manifestations, ce que vous appelez, Daniel Tartakovsky, la manif intergalactique.
Ah, ça n'est pas moi qui ai inventé le terme, ce sont les manifestants qui ont parlé d'un village intergalactique. Oui, je crois qu'on... Il y avait déjà eu des phénomènes de mondialisation avec le 1er mai au siècle dernier, mais l'élément nouveau, c'est que les moyens de circulation étant ce qu'ils sont, les jeunes se déplacent et qu'on a des manifs mondes parce qu'organisés contre la guerre en Irak, simultanément dans tous les pays du monde, mais on a aussi des manifestants du monde entier qui se retrouvent en un lieu pour dire non.
Vous avez cité la guerre en Irak, Daniel Tartakovsky. On peut se demander dans quelle mesure aujourd'hui, parce que ces manifestations monstres n'ont pas empêché cette guerre de se déclencher, est-ce que la manifestation a un avenir? Est-ce que ce qu'on appelait naguère les républiques Bastille ont un avenir? Et est-ce que le pouvoir est encore dans la rue, comme le disait ou comme le niait plutôt Jean-Pierre Raffarin il y a deux ans? Il y a un an.
Bon, il est bien clair que la capacité de résistance du gouvernement face aux retraites a, je crois, porté dans un temps historique court, en tout cas, un coup à cette forme de mobilisation. Et je crois également que le passage de l'antimondialisme à l'altermondialisme, qui amène à chercher des formes plus constructives de la protestation, fait qu'il y aura toujours des manifestations, et sans doute de plus en plus, mais qu'elles ont peut-être une moindre centralité que dans les dernières années.
Merci, Daniel Tartakovsky. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La Manif en éclat, un livre qui vient de paraître aux éditions La Dispute. Et vous avez également écrit Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France, publié en 1998 chez Aubier. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Amélie Briand, une réalisation de Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi 1er novembre, sera le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Nous en parlerons avec Benjamin Stora. Mardi et mercredi, deux émissions spéciales pour les élections américaines. Mardi, les années Bush, et mercredi, les fondements de la puissance américaine. Enfin, jeudi et vendredi, une histoire de la sexualité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, mais restez sur France Inter.